Bien, bonjour à vous. Bienvenue pour ceux qui arrivent seulement aujourd'hui pour ce banquet du livre d'automne. Donc autour du travail sur la langue, il y a parmi vous des abonnés fidèles de Médiathèque que je salue, Castelnaudary, Bram en particulier. Là, ce matin, nous allons essayer de prendre des chemins qui éviteront soit des redites par rapport à ce qui a été développé de façon pertinente, soit d'anticiper ce qui pourrait être dit cet après-midi. Donc, on va essayer de ne pas être dans la répétition, et notamment en se plaçant plus de façon centrale autour de la question de votre rapport d'écrivain dans votre pratique à la langue. Et d'une certaine manière, je pourrais commencer par, en première approche globale, un peu générale, trop générale, par cette question. À l'un et à l'autre, vous répondrez dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez ne pas être d'accord du tout, ce qui pourrait être très bien. Je me contenterai de compter les points, voilà. Est-ce qu'au fond, vous avez le sentiment, quand vous êtes dans un projet, est-ce qu'on peut parler de projet d'ailleurs, d'écriture d'un roman, d'un récit, est-ce que vous êtes dans un sentiment ou une volonté de relative maîtrise de véhicule, du matériau qui est la langue, pour aller à vos fins, la torte pour aller à vos fins, ou au contraire, est-ce que vous avez plutôt le sentiment que vous êtes mené par le bout du nez, par la langue, quoi. C'est-à-dire que y en a qui disent cela, ça a été évoqué hier, jusqu'au point où vous pourriez dire que vous ne savez pas ce que vous faites, quoi. Il y en a qui disent ça. Donc j'aimerais avoir votre point de vue à l'un et à l'autre dans l'ordre que vous souhaitez.
Bon, ben, je vais m'y coller. Alors, je ne sais pas si c'est...
Non, je crois que c'est...
Oui, c'est celui-là. Alors déjà, sur la notion de projet, moi, je ne crois pas une seule fois. Le mot projet, ça fait... J'aurais l'impression de travailler dans l'aérospatiale, pour le coup, d'avoir un truc très sérieux, alors que non, pour moi, c'est... J'ai une envie, j'ai des images, j'ai des désirs, j'ai l'impression qu'un... Le mot projet, ça impliquerait, pour le coup, pas une maîtrise, mais une espèce de surmaîtrise de ce que je veux faire. Donc, du coup, j'aurais l'impression que je n'ai plus à le faire à partir du moment où le projet serait j'aurais un projet, je pourrais travailler sur mon projet, et du coup une fois que j'aurai travaillé sur mon projet, j'aurai plus de livres à écrire. J'ai besoin que ce soit aussi une découverte, donc la notion de projet, il y a des envies, il y a des choses comme ça un petit, qui s'imposent d'une certaine manière, dans le sens où elles deviennent un peu obsessionnelles, des images, des idées, des personnages, des situations, mais ça reste très confus, très flou, et à la fois parfois très précis, mais dans des détails. Et là, j'ai besoin d'y aller. J'ai plutôt besoin d'entrer en contact avec le texte pour essayer de savoir de quoi il est fait. Mais donc, projet, ça me paraîtrait déjà trop sûr de moi, déjà. Ça, c'est un premier point. Après, quant à la question de savoir... sur cette question de maîtrise et de lâcher prise, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'aller et retour entre les deux, une sorte de conversation entre... C'est un petit peu comme une partie un peu civilisée et cartésienne et une partie un petit peu sauvage et cinglée, et que les deux doivent trouver le moyen, non pas de se contrarier, mais au contraire de s'enrichir, de travailler l'une à l'autre, en fait, l'une à l'expression de l'autre, à l'expressivité de l'autre. C'est-à-dire que, pour moi, un écrivain, oui, il doit maîtriser son écriture, évidemment, mais, à l'intérieur de ça, il doit aussi trouver les moyens, là, je dis un écrivain, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un écrivain, là, je parle pour moi, en fait.
Oui, oui, oui.
Dans ma pratique, je sais qu'il y a des choses que je veux absolument faire, que je veux, voilà, quelque chose se dessine, et plus ça avance dans le temps, parce que c'est quand même un travail de temps, plus ça avance, plus ça se précise, plus il y a une construction des personnages, etc., plus à l'intérieur de ça, je laisse aussi énormément de temps, ce à quoi servent les insomnies, ce à quoi servent les journées entières à ne rien faire, C'est aussi ces moments où, à l'intérieur de quelque chose qui se construit, qui se maîtrise totalement, laisser quelques herbes folles venir foutre là, un bordel pas possible, pour qu'à la fin, ce qui pourrait, c'est en ça aussi que c'est pas un projet d'ailleurs, que quelque chose à chaque fois soit en train de se décaler et emmène à un endroit un petit peu insoupçonnable ou un petit peu. Puis d'un seul coup, il y a des phrases comme ça qui peuvent surgir, il y a des situations, des personnages, un mouvement, quelque chose qui n'est pas du tout prévu et qui relance par contre la nécessité de reprendre la maîtrise. C'est donc pour moi vraiment un dialogue entre les deux, ça se construit vraiment ensemble.
Et ce dialogue, enfin cet aller-retour que tu décris bien, là, il se fait en permanence ou tu le vois plutôt comme des étapes successives de ton élaboration?
Ça dépend des livres, en fait.
Ça dépend des livres.
Y a des livres où peut-être il y a peut-être plus de maîtrise que d'autres. Et puis, il y a toujours ce moment du débordement quand même. Il y a un moment ou un autre, il y a quelque chose qui déborde.
On va se focaliser, d'ailleurs, pour l'une comme l'autre, plutôt sur le dernier livre. Sur Continuer, par exemple.
À Continuer, par exemple, j'avais l'émotion de la fin. Vous voyez ce que je... C'était pas des scènes, c'était plutôt une émotion, une densité, un petit peu comme une sorte de... Je voyais, je sais pas comment dire ça, cette idée de presque de d'ébullition en fait. Je sentais ça, je me disais, mais bon. Et pour le début, j'avais des images très précises, c'est-à-dire que je voyais cette femme comme ça, dans son peignoir, je pourrais même dire, je sais pas, le peignoir, il a été lavé 452 fois, c'était hyper précis, je la voyais écraser ses cigarettes, je voyais l'attente, je voyais vraiment quelqu'un qui est en train d'attendre son fils, je voyais la nuit, je voyais tout ça, je voyais la route de la Cano le petit matin, je vois quand elle va chercher son fils, mais je sais pas du tout pourquoi. Et du coup, toute l'inquiétude pour moi, ça va être de comment je traverse tout le livre pour partir de ces scènes-là du début, jusqu'à la fin de ce livre pour retrouver cette émotion que je cherche, en fait.
Et cette femme, je pense à ce que disait hier Emmanuel Pagano, cette femme, c'est un personnage que tu imaginais complètement ou en fait, ça, tu pensais à un personnage réel
quand non, tu non, l'avais. C'est complètement... Non, elle est partie...
Quand on avait cette image de départ.
Bah, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle Sybille, c'est que je me disais, ça va être tellement, c'est tellement le foutoir là-dedans, je sais pas, mais je me dis, c'est elle le centre du livre. J'ai l'impression que tout le livre, du coup, va chercher le trajet de la vie de cette femme, pour essayer de comprendre pourquoi il faut que je trouve la vie de cette femme, en fait. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu absurde comme ça, mais cette image très très forte au départ, qui du coup, c'est ça. Si quelque chose fait projet dans
mais cette
dans
image, elle a surgi comment dans ton esprit?
Je sais rien, je sais pas.
Ah oui, tu ne sais pas. Elle s'est imposée comme cela.
Je sais pas. Ça, il y a un moment, ça vient comme ça. Parce que en fait, alors ça vient de plein de petites choses au départ. Mais ça, le problème, c'est que c'est très long de parler de ça. C'est comment naissent les livres, moi, ça, très souvent, par exemple, ce livre-là, il est né à la lecture d'un article dans Le Monde, d'un homme qui avait emmené son fils au Kirghizistan faire du cheval parce que le fils allait pas très bien. Et c'était au moment où je publiais il y a 2 ans Autour du Monde. Et quand j'avais vu cet article, c'était un moment où j'en avais marre d'aller parler de mon livre, j'en avais marre d'être en tournée comme ça, c'était un peu difficile. En plus, c'était un livre pour lequel c'était un petit peu compliqué. On posait beaucoup de questions. Ah, c'est un livre un peu différent des précédents, etc. Donc, parfois, c'est un peu rude. Et du coup, je repensais à cet article, Kirghizistan. Je me disais, faudrait être capable de faire ça dans sa vie, de dire, bon, non, là, je dois aller faire une rencontre, je sais pas où. En fait, non, au lieu de prendre le train, je vais prendre un avion pour aller au Kirghizistan. J'aime bien me raconter des trucs comme ça. Et évidemment,
tu y es allé?
Bien sûr que non, mais... Non, moi, oui. Voilà. Donc, bah, du coup, c'est comme ça que les choses naissent. Kirghizistan, espèce de nom imprononçable, tu sais pas où est le Z là-dedans, etc. Tu vois. Et en même temps, je me dis, mais c'est, du coup, c'est beau, c'est complètement énigmatique. C'est, donc, du coup, ça, et ce mot, voilà. Donc, j'ai commencé à aller sur Internet, et puis au fur et à mesure, la configuration du livre va naître. Et puis d'un seul coup, il y a cette image, je ne sais absolument pas pourquoi, qui arrive de cette femme en train d'écraser sa cigarette et qui attend son fils dans la nuit. Et voilà, c'est tout. Et après, sauf que ça dure, c'est une image comme ça qui apparaît, et puis sauf qu'elle s'installe. Elle s'installe en moi comme ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Et puis je sais qu'à un moment, la seule façon pour moi de m'en débarrasser, c'est même pas un projet, c'est simplement de le noter quelque part, d'ouvrir un petit fichier comme ça, et puis de laisser traîner cette image. Et puis c'est ça qui va grossir, grandir, prendre de la place.
Mais t'as effleuré ça juste avant. C'est pas un projet, ça c'est clair. Mais il y a un fil narratif, il y a une narration. Tu racontes une histoire d'une certaine manière, dans ce livre aussi, mais aussi dans d'autres, dans tous tes livres. Est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que, par exemple, la fin de l'histoire, tu l'avais en tête?
Non, j'avais le. Je te dis, cette espèce d'émotion.
C'était au niveau émotionnel.
C'est-à-dire que, avec tout ce. Alors, j'ai lu plein de récits de voyage, plein de choses. Et le problème des livres de voyage, c'est quand tu lis des récits, tu vois une suite d'épisodes. Mais ce qui fait que quelque chose fait roman, c'est comment tout se tient ou pas, quoi. Comment on peut enlever ou pas des choses. Et alors, faire une suite d'épisodes comme ça, tu dis, bon, bah, c'est bien, mais. Et moi, je voudrais arriver à faire que quelque chose se dénoue complètement et qu'à la fin, on se dit, bon, ça ne peut arriver qu'à ça, sauf que je ne sais pas du tout le trajet. Alors, souvent, on me dit, ce livre-là, on me le dit beaucoup, on sent une sorte d'inquiétude dans le livre, la présence de la peur, etc. Mais j'ai l'impression que c'est ma propre peur à moi de tomber de cheval avant eux, en fait, quoi. Donc, tout le travail, ça va être d'essayer de tenir sur un fil comme ça, mais ça c'est une sensation que j'ai quasiment à tous les romans, d'avancer sur un fil et d'être moi-même complètement étonné de ce miracle de l'écriture qui fait que quelque chose arrive qui est de l'ordre d'une histoire alors qu'il n'y avait rien au départ, quoi.
Peut-être pour préciser pour ceux qui n'ont pas lu encore, mais ça ne saurait tarder, le livre continuer, cette peur, c'est notamment que la mère, Sibylle, et le fils, Samuel, vont effectivement traverser à cheval, les deux seuls, les grandes étendues montagneuses du Kirghizistan.
Ouais.
Et que c'est ouvert à tous les dangers, que ce soit des bandits de grand chemin ou la géographie elle-même, quoi.
Ouais, ouais.
L'élémental.
Mais surtout qu'on se retrouve avec ce genre d'histoire comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, l'article que j'avais lu dans Le Monde, bah, c'est une configuration, mais ce n'est pas une histoire. Quand on commence avec ça, on se dit, bah, oui, c'est bien, c'est une vague idée, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et comment un livre peut naître de ça? Comment une histoire peut apparaître? Comment des personnages derrière. Parce qu'au départ, quand on a des images de personnages comme ça, c'est des clichés. On a un adolescent, on a une mère comme ça, complètement dépressive, un peu naufragée d'elle-même et tout ça. Qu'est-ce qui fait que, par l'écriture, par un roman, pour moi, s'il y a un art du roman, il est peut-être là-dedans, c'est comment on déconstruit les clichés, les stéréotypes, les préjugés, les figures archétypales type adolescent. Mère, comment cette mère, pendant tout le voyage, va redevenir la jeune femme qu'elle a été, va devenir une femme, va laisser advenir tout ce qui est là en elle. Et pareil pour l'adolescent, comment l'homme qu'il peut devenir va pouvoir émerger, comment on va travailler sur toutes ces zones un petit peu non advenues, comment on va essayer de faire qu'elle. Et moi, ma grande inquiétude en écrivant un livre, c'est ça, c'est comment on désenclave les figures, en fait.
Emmanuel, j'ai senti que tu approuvais sur ce dernier point, à savoir qu'effectivement, ça a été largement évoqué hier, dans tes livres, tu t'attaches à des personnages qui ont été qualifiés hier de marginaux, en tout cas de borderline, ou en tout cas qui ne correspondent pas à des clichés sociaux. Et pour toi, ça, c'est important. Alors, sachant que toi, tu pars de personnages réels, comme tu disais hier. Hein.
Oui, mais là, je faisais plus qu'approuver. J'étais en train de... Enfin, tout ce qui est raconté me faisait penser à des choses qui fait qu'il y avait déjà des choses en marche dans de prochaines écritures. Donc, c'était plus qu'une...
J'étais... D'accord.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi de discuter, ouais. C'est que voilà, et c'est aussi le problème de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de travailler. Et alors, en fait, pour moi, c'est complètement différent. Parce que c'est même pas que je suis dans des projets, c'est pire que ça. J'ai une volonté de contrôle dès le départ. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de recherche par rapport à cette réalité dont tu parles. Et alors, j'appelle pas ça des projets, j'appelle plutôt ça des idées, mais ou des thèmes, ou j'en sais rien. Mais en fait, je vais revenir encore en arrière sur l'écriture elle-même. Avant même d'avoir des projets, des idées de livres, avant même de penser écrire des livres, je peux en parler maintenant parce que j'ai travaillé sur ça justement dans un texte, parce que je me suis interrogée sur comment j'ai écrit, comment j'en suis venue à écrire et comment je ressentais physiquement l'écriture. Et je me suis rendu compte que, bon, j'ai pu comprendre à plusieurs choses, me souvenir à plusieurs choses que j'écrivais donc avant de savoir écrire. Et j'ai essayé de d'écrire physiquement comment ça s'est passé. Parce qu'on grandit, quand on maîtrise l'écriture, la lecture, la marche, tout ça, il y a des processus qui se mettent en route, qui sont physiques. Et l'écriture, alors on le sait, il faut qu'on arrive à tenir la tête droite, enfin tout un tas de choses vestibulaires, sans quoi on n'arrive pas à écrire correctement à la main, en tout cas. Pour l'écriture à l'ordinateur, c'est différent. Et moi, j'ai réfléchi sur ça et je me suis rendu compte que l'apprentissage de l'écriture, c'était presque l'apprentissage de la propreté chez moi, qu'avant, tous ces flux de pensée circulaient et j'arrivais pas à les retenir. J'arrivais pas à les canaliser. Et donc j'essayais de mémoriser, la mémoire me servait d'écriture. J'essayais de mémoriser où j'en étais, de mes petites histoires que je me faisais, toutes petites. Et quand j'ai su écrire, évidemment, j'avais plus besoin de retenir, beaucoup moins. Mais surtout, je pouvais guider, maîtriser ça. Et là, commençait le contrôle, la volonté de contrôle. Et pour tous les sujets sur lesquels je travaille, c'est ça. Je veux tout arriver à savoir, tout arriver à contrôler. Je passe par une période de préécriture qui est très, très longue et très plaisante. J'adore faire ça, les recherches et tout. Et je classe dans des dossiers, puis j'enlève, puis je remets, puis je... Voilà, c'est... Si je montrais le contenu de mon ordinateur, là, au vidéoprojecteur, ce que je fais parfois, ça fait peur à tout le monde. C'est des milliers et des milliers de documents classés méthodiquement et tout ça. Et ça, je le fais dans l'écriture, mais je le fais aussi dans ma vie.
C'est incroyable parce qu'on ne le croirait pas du tout.
Ah. Sauf que dans la vie, mais... on le voit tout de suite.
Ah bon?
Je trouve qu'à lire, on sent
Dans son texte.
Dans le texte, oui. Je trouve qu'on sent un rapport à la. Alors peut-être parce que bon, peut-être c'est un effet pervers de ce que je sais de comment on fait pour prendre des notes dans le rapport à la documentation. Mais moi, ça, c'est ce qui me plaît dans les livres d'Emmanuel. Je trouve on sent cette partie-là, oui. Même si elle n'est pas exclusive, c'est-à-dire c'est livres, pas un truc froid comme ça, là, mais on sent qu'il y a des moments comme ça qui deviennent presque poétiques. Et moi, c'est ce que j'aime dans la documentation aussi, d'ailleurs. Et là, dans les livres d'Emmanuel, je trouve ça assez. On peut. Alors, on sent bien qu'il y en a derrière, quoi. Qu'il y en a que c'est pas. Voilà, on a juste peut-être l'écume de la documentation, quoi. Mais c'est présent, ouais.
Non, mais où je disais que c'est pas évident, ce que tu dis, c'est clair, ça paraît, c'est que par contre, tu as une affection pour des personnages qui ne fonctionnent pas comme ça, pour le coup.
Oui, mais ça parce qu'il y a un moment où ça déborde, et puis surtout, cette volonté de contrôle que j'ai là, dans l'écriture comme dans la vie, elle est impossible. Et il y a des accidents. Et c'est terrible, et c'est encore plus terrible pour moi que cette volonté-là. Et je pense même que si j'écris aussi, c'est pour arriver. Hier, je disais, parce que je sentais que j'arrivais pas à être assez vivante, assez dans la vie et tout ça, ça m'échappe, mais plein de choses m'échappent. Et en plus, j'en suis une période de l'écriture où tout ça se mélange. Et ce qui fait que ce que je n'arrive pas à contrôler dans ma vie, je n'arrive plus à le contrôler dans l'écriture, alors que je tente encore d'écrire pour essayer de le contrôler, et voilà. Et en fait, ça revient un peu à ce qu'il disait, sauf que l'intention de départ n'est pas la même. C'est-à-dire, lui, volontairement, Laurent, il sait qu'il va y avoir des moments où il faut laisser aller, et il le laisse volontiers, mais moi c'est lui, que c'est malgré moi.
Il aime les herbes folles. Toi, tu les éradiques, quoi.
Non. Ouais, mais moi, je les aime parce que je sais qu'elles sont en fait, je veux dire, on peut dire que je les aime d'une certaine manière par excès de contrôle, en fait, parce que comme je sais qu'elles sont inévitables, du coup, je gère leur petit espace. me dire, bon, là, il faut que ce soit complètement fou, par exemple. Mais ouais. Ça, mais au fond, je sais pas si
mieux que moi,
je sais pas si c'est, je sais pas
oui,
si c'est si différent.
Maîtrise, c'est ça.
Ouais, en fait, non, mais je sais pas si c'est. Si... Non, mais c'est vrai que c'est une question absolument centrale dans l'écriture, qui est ce rapport. Ce rapport de la façon dont on contrôle et dont on, je veux pas dire dont on subit l'incontrôlé, parce que c'est aussi l'expérience poétique, elle passe aussi par ces accidents, appelons-les, on peut appeler
ce
ça.
Ce que Ravet appelle les scories, quoi.
Oui, voilà. Mais scories, par exemple, quand Ravet dit ça, je sais qu'on en a déjà parlé avec lui, moi je suis pas d'accord sur ce mot-là, parce que je dis, mais scories, ça voudrait dire que ce sont pas des déchets. Pour moi, ce ne sont pas des choses... je pense que c'est des choses qu'il faut intégrer parce que la faille fait partie du système d'écriture. Elle en est aussi un des moteurs. Et c'est aussi parce qu'on sait que l'accident sera permanent qu'il faut aller chercher l'hyper-contrôle. Enfin, je veux dire, pour moi, ça va avec. C'est parce qu'il y a de l'accident qu'il peut y avoir la possibilité du contrôle, sinon on n'aurait pas besoin de contrôler.
Tandis que moi, je ne sais pas l'accueillir encore. Je n'ai pas cette maturité où je ne sais pas. Et d'ailleurs... j'écris pour peut-être essayer de trouver quelque chose comme ça. On croit souvent que je suis modeste ou alors fausse modeste, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est que je suis persuadée que, même si quand on me demande ce que je fais, je n'ai aucun mal à dire que je suis écrivain, mais je suis persuadée que je ne le suis pas encore et que j'ai beaucoup de travail à faire, et y compris pour être une femme. C'est-à-dire, moi, mon but, c'est d'arriver si possible au moment où ça sera la fin de ma vie, comme ça ça coïncidera, ça sera bien, sinon après j'aurai plus rien à faire, mais je tends vers être un écrivain et être une femme.
Tu te prépares une happy end, quoi.
Non, mais voilà, c'est vraiment toute une recherche permanente et qui peut-être, à un moment donné, il va y avoir cette obligation de lâcher prise, j'en sais rien. Il n'empêche que je crois que je n'arrive pas à accueillir les accidents, sauf dans vraiment la construction narrative. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au travail de Laurent, parce que Laurent, malgré ou bien, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, ce truc de construction, de recherche, d'interrogation, il y a quand même un truc tout simple dans son travail que moi j'aime beaucoup, beaucoup, c'est raconter des histoires. Il y a toujours des histoires. Et moi j'aime ça, et de toute façon je ne sais pas faire autre chose, mais il y a comme ça quelque chose que je crois, quand tu compares les récits de voyage et les romans, tu parles de cohérence, etc. Et moi j'appelle ça raconter des histoires, en fait, de narration, finalement.
Oui.
Mais c'est vrai que moi, par exemple, ça passe
du personnage. Une mise en ordre, quand même.
Oui, oui, mais c'est vrai que, par exemple, pour moi, le personnage, c'est une sorte de vecteur central à partir duquel peut naître un livre. Et donc, pour moi, une histoire, si j'ai pas ça, c'est vrai que je...
Tu n'avances pas.
Il y a d'autres possibilités de livres et d'écriture.
Ouais,
simplement, nous, on est dans la narration.
Oui, tout à fait.
Enfin,
tout à fait.
Comme moi, et puis,
ce qui est le cas, on s'est promis éventuellement de dire quelques mots de l'absence de Stefano De Guy.
Oui.
J'ai oublié de préciser, pour ceux qui n'étaient pas là les jours passés, que Stefano De Guy, qui devait participer à la table ronde, hélas, est malade et est blessé. Donc, il a dû à regret renoncer à venir ici, quoi. Mais donc un mot sur Stéphane par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il est dans la même perspective que vous de ce point de vue là
oui, sauf que la documentation, j'ai l'impression qu'elle est encore plus fouillée.
Oui, je pense que ça
que toi Emmanuel,
alors moi elle sera plus
que
pas
Laurent,
en quantité,
oui,
pas mais... en quantité, parce que moi j'ai énormément de choses,
oui.
Sauf que c'est des choses alors il parlait de, on ne sait pas mettre le Z là, dans son pays dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom,
mais je crois qu'il y a deux formes d'ailleurs. On peut supprimer le Z, non? On peut pas dire Kyrgyzstan aussi.
Si, on peut dire Kirghizie, on peut dire. Ouais. Mais c'est ça qui est fabuleux, ouais. C'est que c'est un mot qui est complètement plastique, parce que le problème, c'est que c'est un mot, et à l'intérieur même des villes, en fait, il y a la prononciation anglaise et la prononciation française. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que même pour écrire simplement le nom des villes, en fait, on a beaucoup de choix, et on sent que c'est pas très fixe, en fait. Comme,
donc il y a une sorte d'exotisme qui le fait rêver, et chez Stéphane aussi. Et c'est là où je dis c'est pire, dans le sens où c'est très érudit sur quelque chose qui me paraît lointain. Tandis que moi, j'aurais en quantité, j'aurais autant de documents, si ce n'est plus. Mais sauf que je vais cet exotisme, cette fascination, ce, 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 comment on dit, potentiel littéraire et poétique de certains mots et tout ça. Je vais le chercher dans des trucs beaucoup plus prosaïques, proches et au niveau géographique. Que ce genre de choses que va aussi chercher Stéphane très loin.
Ouais, mais Stéphane, je me souviens, parce que là, pour le coup, j'ai été un an à la Villa Médicis en même temps que lui.
Oui,
et je me souviens, quand on allait chez lui, il avait, on peut dire qu'il avait transféré la bibliothèque de la villa dans son appart, hein, quand même.
Oui, oui, oui.
Alors que moi, j'ai dû y aller deux fois, je crois. Moi, je me contentais d'aller dans la ville, j'allais partout. Alors que, donc, je ne suis pas un voyageur, mais enfin bon. Mais lui, il a vraiment un plaisir de l'érudition et alors que moi, il n'y a pas
son propre roman est impressionnant.
La théorie des nuages, bien qui sûr, est sur voilà, l'histoire ouais. de ce coin, les néphologues, hein, c'est ça.
Oui, c'est...
Les spécialistes des nuages, c'est clair. Ouais.
Alors que c'est vrai que moi, j'ai absolument aussi, besoin de passer par un personnage, par des personnages, et c'est à partir de là que la documentation peut commencer à arriver bah, sur ce pays, sur les montagnes, sur tout ça. Moi, pareil, je me suis quand même énormément,
bah oui, bien sûr, vraiment documenté. Bah,
si tu veux, à partir
c'est
du moment,
c'est pas un paysage imaginaire que
non, tu parce que j'avais dire non, parce que d'abord j'ai pas beaucoup d'imagination, et à partir du moment où, mais c'est toujours le problème que j'ai eu dès que j'ai commencé à traiter de au départ, pour une raison simple, des sujets, je pouvais toujours me dire que je pouvais y aller, mais sauf que il y a des problèmes de temps. Par exemple, quand vraiment le problème s'est posé avec la première fois, avec Dans la foule, pour le stade du Ezel, parce que le Ezel, j'y étais pas. Donc comment on décrit
On aurait cru.
Écoute, oui, puisqu'il y a des gens qui eux y étaient, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui y était, qui m'a demandé où j'étais dans le stade parce qu'il était convaincu que j'y étais. Ce qui m'a fait plaisir, parce que ça c'est, mais parce que c'est vrai que j'ai lu à peu près tout ce qui avait été écrit sur le Ezel à ce moment-là, mais je cherchais des détails, des choses, et j'étais pas content tant que j'avais pas trouvé un vrai billet pour savoir comment ils étaient. Est-ce que c'était des tourniquets comme ceci? Est-ce que c'était dans ce... j'ai fait des trucs fous. Je suis allé voir un match de foot et tout ça. Mais voilà, un besoin le besoin de documentation, pour moi, dans ces choses-là, il va aussi nourrir ce que Barthes appelait les effets de réel, ce que depuis Rancière, il y a 2-3 ans, a fait un petit livre qui s'appelle Le fil perdu, qui est vraiment bien, parce sur ce texte, où il dit, mais en fait, que Barthes a peut-être tort d'appeler ça des effets de réel, parce qu'en fait, il s'agit de la littérature elle-même. C'est-à-dire que c'est par le corps de ces petits détails, par la précision de toute cette documentation qui, a priori, est juste de la description, est juste du décor, est juste ceci. Non, en fait, non. C'est le phrasé même qui passe par ça. C'est le souffle même de la littérature qui se déploie par ça. Et ça, moi, je suis absolument sur cette ligne-là. Ça me paraît absolument évident que si on n'a pas... je me souviens de discussions que j'avais avec des gens qui, justement, pour le Ezel, par exemple, j'avais 3000 documents, je regardais, je me souviens d'une page, par exemple, j'avais un truc hyper complet, etc. Et il y avait juste un petit truc ridicule qui disait, tiens, les tifosi n'ont pas voulu porter ce maillot. 15 jours avant, il y a eu toute une histoire, ils ne voulaient pas porter ce maillot parce qu'ils disaient qu'il leur portait malheur. Ils ont demandé à changer de maillot et on leur a refusé. Et ils sont allés avec ce maillot-là le jour du... Bon, exemple, moi, ça m'intéresse, par exemple.
Mais alors, comment tu fais par rapport à ce rapport au réel que tu évoques, il me semble, dans ce que tu dis, qu'il y a une exigence presque éthique. Comment tu fais? Parce que les documents que tu as pu lire, c'était beaucoup des témoignages, par exemple. Or, on sait que les témoignages, il y en a autant que de témoins.
Bien sûr, mais c'est ça qui est bien.
Et que c'est du coup une polyphonie, mais qui sont des fictions.
Tout à fait. Oui, mais justement, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la documentation, et c'est ce qui m'intéresse dans le fait de ne pas aller dans un pays quand je... Parce que d'abord, bon, le Ezel, je te dis, c'était 20 ans avant, donc c'était déjà trop tard, ça, je ne pouvais pas y aller. Pourtant, je suis allé à Bruxelles, j'ai fait le chemin pour le coup à pied, ouais. Mais je n'avais pas ce truc de... même problème pour la guerre d'Algérie, quand les gens me disent, mais vous n'êtes pas allé, du coup, en Algérie, pour... Mais d'accord, mais même si j'y vais maintenant, je n'irai pas en 1960, ouais. Donc ouais. C'est trop tard. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui est formidable quand même, c'est les livres. Et il suffit de prendre n'importe quel livre où on a des descriptions, par exemple, de l'Algérie ou d'un stade dans les années 80 ou d'un pays où, comme le Kirghizistan. Il suffit de prendre, d'aller chercher comme ça et une description, pour moi, ou un document, ça devient tout de suite de la fiction. Tout de suite, ça se transforme en récit. Parce que c'est la magie du langage. Ouais. Pour moi, le langage, il ouvre tout de suite. Alors peut-être parce que je suis très déficient en imaginaire et que j'en ai pas. Par contre, les mots, pour moi, en ont un extraordinaire. Ça s'ouvre tout le temps. Alors que j'ai l'impression, et je le sais pour l'avoir un petit peu fait parfois, avoir essayé ça, quand je vais dans un lieu, il y a trop de choses. Je ne sais plus par quoi commencer. Je peux prendre des notes, mais je prends plein de notes, très bien, mais je ne sais plus les cadrer, je ne sais plus... Je ne sais plus comment, pour le coup, je ne sais plus comment les contrôler. Et là, d'un seul coup, je me sens complètement débordé par le. Alors que le document, malgré tout, on a toujours, c'est vrai qu'on a toujours un contrôle sur ce qu'on peut choisir à l'intérieur, puisqu'il s'agit quand même de hiérarchiser. J'entendais ce qu'Emmanuel disait hier sur la question de la digression, qui est toujours aussi une question très compliquée pour les écrivains, parce que dans ce rapport...
C'est un accident, non ?
Oui, mais c'est ça, mais comment le contrôle et la digression travaillent ensemble, et comment on aime la digression, et comment en même temps il faut... un peu la circonscrire quand même, comment on travaille avec ça. Et je trouve que la documentation et le rapport au... comment on cadre le réel, comment on cadre l'histoire, comment on cadre... comment un paysage, par exemple, devient autre chose qu'un décor, alors que si on se contente de le noter comme ça, on se dit, merde, un décor, ça sert à rien. Il faut que ça devienne actif, il faut que ça devienne vivant, il faut que ça dise quelque chose, il faut que ça... Et moi, c'est ça que j'aime, par exemple, dans les livres d'Emmanuel, c'est que je trouve le rapport à la documentation fait que les choses, les objets dont elle parle deviennent des personnages, deviennent complètement actifs, en fait. Ça, pour moi, c'est extrêmement important.
Je crois que là, pour le coup, tu es assez d'accord avec ce que dit Laurent.
Eh bien, en plus, j'étais en train de réfléchir sur cette question d'imagination, parce que moi, on m'a toujours dit « t'as trop d'imagination ». Et en fait, j'ai réalisé que c'est comme Laurent, je n'en ai pas. Par contre, j'ai de la curiosité. Et aussi, je pense qu'on a quelque chose qu'on a tendance à appeler de l'intuition, où on sait que là, il se passe quelque chose, on sait que là, ça va faire récit, on sait que là, il y a une possibilité narrative. Et du coup, ça va très vite. Et souvent, on ne fait pas de plan aussi pour les mêmes raisons. Mais en réalité, c'est déjà préexistant tout ça, et on va direct, on sait. Et puis, par contre... par rapport à ces documents et encore une fois il maîtrise mieux le truc que moi parce que du coup moi je me laisse parfois envahir et du coup je perds ma propre écriture à cause de tous ces documents qui sont aussi parlants, voilà. Donc je réfléchissais à ça. Il y a tous ces choses, la curiosité, que les gens pensent que c'est l'imagination, mais c'est juste être curieux de plein de choses, l'intuition, et puis le débordement, la digression et l'envahissement de tous ces documents. Mais sauf que moi, j'appelle documents y compris aller sur les lieux, en quelque sorte. C'est pas juste les écrits sur ou les photos, les vidéos sur. Et ça, c'est très, très polymorphe et très varié. Voilà. Et je rencontre les gens aussi, je fais des entretiens. Je sais pas si tu fais ça.
Alors moi, ça me terrorise, moi, de rencontrer des gens, ça me terrorise totalement. Je suis incapable de faire ça. Alors ça, par exemple, moi, je vois des gens, je passe sous la table.
Tu fais des entretiens, méthodiques.
Ah, et on me dit que j'ose faire des trucs, mais oui. Et en plus, quand on dit que c'est pour écrire, on nous ouvre des portes. C'est incroyable, hein.
Ah oui.
Et notamment, j'ai rencontré pour mon prochain livre. L'organiste titulaire de l'orgue de l'abbaye de Sainte-Croix à Bordeaux, c'est quelqu'un à un haut niveau dans son domaine. Il a l'habitude de répondre à des entretiens, tout ça. Et il était tout ému, tout content que je lui demande des choses, mais parce que c'était pas pour un article, c'était pour un livre. Mais je rencontre des gens comme ça. Donc,
il va être déçu si tu le nommes pas. Dans ton livre.
Eh ben, je le nomme, bien sûr que si, je le nomme même dans le, non seulement dans les remerciements, mais même il devient personnage.
D'accord.
Et il y en a plein comme ça dans le futur livre. Et alors, il y a des gens de ma propre famille. Donc, voilà. Et puis, il y a des gens comme ça. Il y a l'organiste, il y a le facteur qui a restauré cet orgue, mais il y a aussi le responsable de la distribution de l'eau de tel village. Voilà, des choses comme ça. Et j'adore faire ouais, j'adore ça. Et en plus, c'est marrant parce que. Alors, je ne sais pas si c'est les questions que je leur pose ou quoi. Et puis c'est toujours dans des domaines où j'y connais rien, mais rien. Et du coup, ça part justement dans des digressions et tout, et ils commencent à raconter des choses qu'ils n'auraient surtout pas dit à des journalistes et tout ça, parfois très intimes, parfois complètement décalées. Et voilà, donc j'ai plein d'archives. Je l'ai fait aussi beaucoup pour un petit livre qui s'appelle En cheveux, sur d'où venait un châle en soie de mer qui est conservé dans un musée à Lyon. J'ai réussi à retrouver les personnes qui ont vendu le châle au musée. Et en plus, du coup, je suis allée tellement loin que ça a relancé les recherches sur ce châle. Il n'y en a que 4 au monde de châles de ce type. Et donc, la personne spécialiste de la soie de mer, qui est à Bâle, a dit « Ah, ben du coup, je peux rouvrir le dossier, tout ça. » Mais alors qu'en fait, je suis allée dans des trucs très, très intimes de relations entre un frère et une sœur dans les années 40 en Italie. Et donc, j'ai plein d'archives comme ça, de documents sonores avec des voix... Et moi j'adore faire ça. Et parce qu'en fait, j'adore recevoir, je ne sais pas comment dire.
Ouais.
C'est comme s'ils allaient eux-mêmes construire leur personnage à partir de leur personne.
Voilà. Alors, sur les personnages, je voudrais revenir sur une convergence peut-être fortuite dans vos deux livres, mais. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement fortuite. Le personnage central dans les deux cas, c'est une mère. Et une mère défaillante, coupable, et qui essaie, et dans les deux cas par rapport à un fils, et dans les deux cas qui essaie, la mère, de dépasser le déterminisme lié à ce qu'elle estime être une faute. Et ça, c'est troublant, parce que c'est abordé de façon totalement différente. Hein. Mais il y a quand même ce motif. Et je me suis demandé si, dans une certaine mesure, ce n'était pas aussi des personnages allégoriques. Est-ce que cette mère, par cette mère défaillante, vous ne dites pas quelque chose sur la difficulté de l'écrivain par rapport à la langue ? Et à la langue maternelle, comme on dit.
Joker.
Alors, si moi j'ai des choses à dire là-dessus, c'est que déjà, il disait tout à l'heure qu'il n'avait pas été à son pays, dont je ne prononcerai pas le nom. Et il y a plein de choses aussi que je fais moi sans y être allée, évidemment. D'autant plus qu'il y a des périodes où c'est impossible d'aller, même mentalement. Et on rejoint quelque chose qui est d'une évidence, c'est-à-dire que Laurent ne sera jamais une mère et moi je ne serai jamais un fils. Et ça, c'est pas rien dans ce qu'on écrit.
C'est sûr, c'est absolument fondamental ça.
Et donc, il écrit forcément à un moment donné depuis quelque chose qu'il ne connaît absolument pas et depuis quelque chose qu'il connaît intimement, c'est-à-dire sa posture de fils, ayant eu une mère. Et moi, j'écris forcément depuis quelque chose que je connais très très bien et qui m'échappe complètement, c'est-à-dire depuis mon point de vue de mère. J'en ai 2 fils et une fille. Et un qui est adulte, un qui est adolescent. Et de quelque chose que je ne serai jamais, c'est-à-dire que je ne connaîtrai jamais, c'est-à-dire le rapport à la mère en tant que fils qui est complètement, complètement différent de celui en tant que fille. Et ça m'interroge beaucoup. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les adolescents troglodytes.
C'est pour ça que je l'ai apporté. Parce que
je n'ai jamais eu de frère. Et c'est toute l'interrogation de qu'est-ce qu'avoir un frère, non seulement un frère, mais un grand frère. Voilà.
Non, mais mais dans ce livre, le personnage principal qui est la conductrice,
oui.
Elle est elle s'avère être transsexuelle.
Elle s'avère être surtout une grande sœur qui est devenue un grand frère.
Oui.
Et son petit frère lui dit tout le temps qu'il n'a plus de grande sœur.
Eh ben oui.
Et tout ça, c'est des trucs qui me perturbent. Non mais... qui me perturbent vraiment. C'est-à-dire que dans cette transformation-là, la personne, je la connais très 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 bien.
Et t'as pu te glisser dans sa peau et dans le passage de l'un à l'autre.
Complètement, oui.
Des genres.
Oui, 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 oui. Mais parce que, pour des raisons que le lecteur ne peut pas savoir, que je peux dire, entre autres, par exemple, cette fille-là, elle a quand même, beaucoup plus que dans le livre, la personne réelle, a vécu en tant qu'homme. Alors que dans le livre, elle a été un garçon puis est devenue une femme. Il n'y a pas eu toute une période où elle aurait été un homme. Elle, celle que je connais, elle a été un homme. Et pendant la période où elle a été un homme, on va dire une dizaine d'années à peu près, elle a eu elle-même une fille. Et dont maintenant elle est une maman, on va dire. Et cette fille porte le même prénom que la mienne. Et à un moment donné, elles se sont croisées sans qu'on le sache. Donc il y a des trucs qui font et que ça, tout le monde connaît dans sa vie, des espèces de coïncidences troublantes et tout, qui fait qu'on comprend des choses presque malgré nous, je sais pas. Et ça nous conduit, c'est d'autres chemins. Mais par rapport à cette histoire de mère-fils, là, tout ça. Voilà, je voulais reprendre sur par rapport à la langue. On parlait de ça.
Oui, 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 oui.
Il y a quand même un problème de se comprendre, de fascination qu'on a par rapport au langage, etc. Et par rapport à la langue maternelle. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Quand on parlait d'exotisme tout à l'heure, moi j'ai travaillé sur une langue qui m'est très proche et que je ne connais pas, qui est la langue de mes grands-parents, et qui est une langue française mais que je ne parle pas. Et ça m'a toujours interrogée. J'ai compris assez vite, petite fille, que mes grands-parents ne parlaient pas la même langue que moi, et qu'il y avait une étrangeté, et je savais pourtant qu'ils étaient autant français que moi, si ce n'est plus. Je savais leur enracinement dans la terre, le terroir et tout ça. J'avais cette interrogation par rapport à cette langue qui est très belle et qui disparaît. Et du coup, je me suis interrogée sur ça. Et pour des raisons que je ne vais pas développer là, qui ne sont pas intéressantes par rapport à ce sujet, j'ai consulté des archives sur l'histoire de ma famille. Et donc, je me suis confrontée. Et alors, du coup, j'ai écrit beaucoup par rapport à ça dans le dernier livre. C'est-à-dire, je me suis confrontée au langage des archives du 19e siècle, qui est fabuleux, fabuleux, fabuleux. De toute façon, le langage du droit, il est fabuleux au niveau de l'écriture, parce qu'il est précis, puis ça devient, enfin bon. Donc là, je me suis confrontée à ce langage, non seulement des archives, des procès, etc., mais du 19e, donc en plus. Et la langue de ma famille, du coup, les mots, parce qu'on parlait hier d'hydronymes, et les hydronymes, les toponymes, tout ça, ça dit énormément de choses, parce que ces mots... Il y avait un texte qui était lu, je crois que c'était celui de Mélis de Keringa dans le spectacle de samedi soir sur comment les lieux sont nommés, etc. Là, dans toutes les recherches que j'ai faites, les lieux sont nommés selon les plantations, les couvertures végétales et les reliefs. Clapas, cos, etc. Tous ces mots-là que j'ai étudiés qui sont absolument fascinants et qui sont étrangers pour moi, et en même temps, je sens... Que je viens de là et que donc mon écriture vient de là. Et c'est bon, maternel, paternel, peu importe, mais là on est vraiment au plus près du maternel dans le sens qu'on est né de là presque.
Matriciel.
Ouais, voilà, voilà. Et qu'on est entouré de ça et que ça devient un paysage, parce qu'en plus c'est un paysage façonné par l'homme, nommé par l'homme et qui donne des noms de lieux et des noms de personnes. Et c'est quand même carrément toute une identité. Voilà. Et il faut faire avec et tout. Enfin, du coup, c'est... Oui, mais c'est ça. Je crois que c'est par rapport à tous ces trucs de Leusienne, d'inventer une langue étrangère dans sa propre langue. Je me perds un peu, mais je trouve ça fascinant de retrouver, voilà, je parle de bains de langage, en fait, de se plonger dans des bains de langage qui nous font... Moi, ça me fait... C'est physique, le rapport, il est physique. J'entends des mots que je ne comprends pas, dont je sais qu'ils étaient prononcés par mes grands-parents, par exemple. Ça me fait tout de suite... Ou des expressions, des tournures. Ça me fait tout de suite quelque chose de très physique.
Au point qu'hier, tu n'étais pas sûre de pouvoir dire « espanté ».
Non, c'était pas ça, c'était que je me demandais si on le comprenait ici. Je me doutais qu'on le comprenait, mais il y a des fois où les gens me disent c'est quoi ce mot et tout. Ouais, et puis c'est un peu, ça paraît toujours un peu. On dirait presque des gros mots des fois quand on dit. Si, si, mais. Il y a des lieux où, bon.
Il y a des lieux où c'est interdit.
Dans le 6e arrondissement, on peut parler normalement. Je pense.
Non. Laurent.
Non, mais c'est. Je repensais un petit peu à ce qu'on disait juste avant sur le. Tu vois, par exemple, Emmanuel, toi, tu as besoin d'aller prendre des personnages, dans les personnages, à partir de gens réels. Moi, pour le coup, c'est plutôt le contraire. À chaque fois, il m'est arrivé une ou deux fois de mettre, par exemple, des prénoms de gens qui existent. Ça a été des scandales à chaque fois. Mais bon, après, tout dépend de ce qu'on fait vivre à ces personnages. C'est sûr que moi, j'essaie de m'arranger pour que, même par rapport aux prénoms, par exemple, de trouver des prénoms de gens que je ne connais absolument pas. Ça m'angoisse parce que comme après ils vivent pas forcément dans mes livres c'est pas forcément les vacances quoi donc c'est vrai que et par exemple je t'entendais hier parler du fait que écrire au jeu et écrire par des personnages de femmes en passant par des femmes pour toi c'était plus facile parce que t'étais une femme. Alors que pour moi, j'ai l'impression que, pour le coup, exactement au contraire, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour moi d'aller vers un homme parce que justement, ce que je suis moi m'empêche, me brouille, me parasite complètement. J'ai l'impression que je peux assumer plus facilement, j'allais dire, de dire la vérité presque, d'être plus. Parce que c'est vrai qu'autant j'ai beaucoup de mal à aller parler aux gens, à leur demander, à faire, tu vois, enfin, vraiment aller à la rencontre des gens pour leur demander, etc. Par contre, je passe mon temps à les épier, pas à les espionner, ouais. Je dirais pas ça, mais vraiment à les épier, c'est-à-dire à regarder comment les gens parlent tout le temps, même quand ils se taisent, quoi. Surtout quand ils se taisent, c'est là qu'ils parlent le plus. Et ça, je regarde ça avec. Et c'est en ça où on travaille tout le temps. Ça, c'est vrai qu'on travaille tout le temps. On est tout le temps en train de travailler. C'est-à-dire, quand quelqu'un me parle, j'écoute à peine ce qu'il dit. Par contre, je regarde comment ses mains tripotent la montre.
On est en veille tout le temps.
Des choses comme ça, par exemple.
On est en veille. On est
oui,
tout
complètement.
En veille.
Et pour moi, c'est ça qui est. Ce que je vais noter, ça va être tous ces micro-gestes. Ça, par contre, c'est tout le temps là. Et donc, ce qu'une femme qui attend son fils, qui a peur, etc. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être aussi dans mon histoire familiale, parce que j'ai vu ma mère beaucoup attendre ses garnements de fils dont j'étais. Et voilà, pour moi, c'est un rapport d'observation plus que de...
T'as effleuré la chose. Le pronom utilisé pour le discours de la narratrice, du narrateur, Emmanuel a dit, et tu l'as rappelé, elle n'hésite pas à utiliser le « je ». Le narrateur est au « je ».
C'est pas que je n'utilise pas, c'est que c'est la seule chose que je sais faire. J'utilise complètement, je ne peux pas faire « elle » ou « il ».
Et toi, par contre, ce qui m'a frappé dans Continuer, c'est que c'est flottant et que parfois, tu utilises le « on ». Il y a des longs passages, à plusieurs reprises tout au long du livre, où c'est le « on » que tu emploies.
Oui, ça a commencé avec des hommes, cette maladie-là. C'est drôle parce que c'est vrai qu'au début, les premiers livres, c'était vraiment que des monologues. C'était un jeu, mais qui était vraiment de l'espace du monologue, en fait, du monologue intérieur avec cette espèce de bouillie mentale qui est très particulière, qui n'est pas une parole au jeu finalement, mais qui est quelque chose un petit peu différent de ça. Et au fur et à mesure, ça s'est déplacé. Et c'est vrai qu'il y a plus je vais vers la troisième personne, plus je vais vers quelque chose qui essaie de se mettre en perspective, peut-être, plus à l'intérieur de ça, le « on » prend une place effectivement qui est assez importante. Il y a des passages entiers, dans le dernier livre c'est vrai, mais c'est...
Parce que c'est pas la troisième personne, c'est pas « il » ou « elle », c'est « on ».
Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est...
Quel sens tu lui donnes? Pourquoi ce « on » au-delà du constat que tu l'utilises de plus en plus?
Je sais pas, franchement, je sais pas. Il y a un moment, c'est, pour moi, c'est évident que le... c'est comme s'il y avait une façon de parler d'une sorte de... Comment le... Une sorte d'un narrateur qui se refuse quand même à être omniscient parce que je sais pas ce que c'est ça, en fait. Le narrateur omniscient, en même temps, pour moi, ça, c'est comme le passé simple dans un roman, quoi. Moi, je peux pas lire ça sans rigoler, quoi. C'est pas possible, quoi. Je crois, moi, c'est pas... Je dis... voilà. Bon, bref.
Mais moi, j'ai peut-être une petite idée, parce que...
Vas-y.
Moi, j'ai commencé le « nous ». Ah, « nous, nous ».
Oui, oui.
Qui est quand même une première personne, mais du pluriel.
Du pluriel, oui.
Et dans le dernier livre, j'ai longtemps hésité, pour certains passages, entre le « nous » et le « on ». Qui sont censés avoir la même fonction, on est d'accord.
Oui.
Parce que le on, c'est une troisième personne, mais en réalité, oui. C'est une première personne du
souvent,
pluriel.
Oui.
Souvent.
Oui, oui.
Et comme ce sont des il y a beaucoup de périodes qui sont très lointaines, je me suis fixé une règle, c'est-à-dire que je mettais le on pour être un peu quand même avec les gens de cette époque-là,
mais en même temps,
tout en ayant l'honnêteté de dire oh, ben non, je n'ai pas vécu au XVIIe siècle, et je mettais le nous. Quand il s'agissait vraiment de nous, c'est-à-dire la narratrice en tout cas, elle, quand elle est petite fille ou quand elle parle de sa famille ou quoi, elle dit nous. Et elle dit on, mais pour s'inclure quand même parmi ces gens dont elle parle, parce que ce sont des gens qui lui sont proches pour telle ou telle raison, mais que techniquement c'est pas possible qu'elle y était. Voilà, c'était ça.
Il y a ça, et puis alors c'est vrai, ça c'est important. Et pour moi, alors dans Continuer par exemple, il y a quelque chose qui est très important. On a ce duo comme ça de la mère et de son fils. Et alors on. Et moi, j'avais l'impression d'être avec eux, mais j'avais l'impression que, et ça même j'en suis certain, il y a vraiment une présence du lecteur qui est très forte.
Mmh.
C'est-à-dire qu'à la fin du livre, il y a certaines choses que seul le lecteur sait, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps de s'en parler, on va dire. Et donc, il y a des choses, seul le lecteur. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, dire « on », c'est à la fois, on est tous dans le même... dans la même histoire, c'est-à-dire il y a les personnages, mais il y a aussi l'auteur et il y a aussi le lecteur. Et on est là.
Tu t'effaces, tu as un peu d'honnêteté et tu t'effaces.
Ouais, pour moi, et c'est drôle parce que hier soir, en écoutant, les textes
les
dits,
lectures, oui.
Les lectures, je me disais, je n'arrive plus du tout le jeu et le monologue. Je me dis, je n'y arrive. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un espace qui s'est refermé, comme si, pour moi, parce que, comme si, paradoxalement, il était devenu trop littéraire. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, par exemple, qui se passe quand même dans la vie d'un écrivain. Ça, c'est une chose, pour moi, c'est important de le dire, en fait, ça, parce que c'est comment j'ai l'impression qu'on passe aussi notre vie à courir derrière quelque chose qui est soit toujours en train de s'effondrer derrière soi ou en train de se fossiliser derrière soi. Parce qu'il y a aussi parfois le regard des autres, le regard de, je sais pas, parfois des universitaires, des gens comme ça qui vous parlent de votre travail sur la question du monologue, sur trucs comme ça. Je ne sais pas de quoi on me parle. Alors moi, je dis non, moi j'écris quelque chose de très... C'est pour ça aussi, ça rejoint la question du projet. Pour moi, c'est un organisme vivant qui est toujours en train de se transformer. Et je sais pas c'est quoi être écrivain, je sais pas c'est quoi écrire des livres. Donc pour moi, il faut toujours avancer sur ça, toujours être en train de chercher à débroussailler quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Et c'est vrai que il y a un moment quand... Je me souviens une fois, quelqu'un m'avait envoyé un pastiche d'un de mes textes. Alors c'était assez drôle, c'était sur un mode... Et j'avais vraiment, mais stylistiquement, je reconnaissais vraiment mon écriture, ça m'avait... mais j'ai eu une espèce d'effet, l'impression de voir Méduse en face de moi. Quoi.
Tu subiras peut-être l'expérience cet après-midi. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais c'est ce qu'a vécu.
Mais c'est parce que la personne n'était pas là qu'elle a vécu ça. Donc peut-être lui, il n'aura pas.
Non, mais c'était troublant, mais c'est troublant comme d'entendre ces textes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui, à chaque fois, a besoin de décaler. Alors, évidemment, du coup, ça a toujours un effet négatif, à savoir que vous avez toujours des lecteurs qui vous disent « Ah bah oui, mais ça a vachement changé, j'aimais mieux avant, quoi. » Mais bon, bah oui, mais c'est comme ça, parce que l'écriture n'a pas de pitié sur ça. C'est-à-dire que ça avance ou ça meurt. Pour moi, je suis absolument certain de ça. Et y compris avec soi. C'est-à-dire que dès qu'à un moment, on commence à se reconnaître dans son propre travail, c'est qu'on est perdu. C'est qu'on est perdu. Et il faut être toujours en terre inconnue, sinon c'est pas la peine, quoi. Très important.
Tu n'as pas répondu tout à l'heure à la question de la figure de la mère fautive qui essaye de réparer. Et la possible allégorie.
Je connais mon numéro quand même, pour ne pas répondre aux questions.
Comme éventuelle allégorie de rapport embarrassé ou compliqué à la langue.
Bah avec ce livre-là, c'est sans doute le livre où c'est le plus vrai. D'abord parce qu'effectivement, il y a ce fils qui s'appelle Samuel et qui s'appelle pas Samuel par hasard, puisqu'il y a vraiment la Beckett en arrière-fond dans ce livre, y compris dès le titre d'ailleurs. Mais c'est vrai aussi, même dans le rapport à l'espace, dans le rapport, il y a cette scène, je crois qu'il y a eu une lecture de ça samedi, je crois, j'étais pas là, des marécages, etc. Pour moi, ça, c'est vrai que ça serait assez bien une métaphore de l'écriture, je me souviens, alors, ou même de l'art en général. Je me souviens quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je me souviens d'un prof que j'aimais beaucoup, qui nous avait donné un truc à faire comme ça, puis personne n'y arrivait, c'était un truc très compliqué, puis en même temps on savait pas trop de quoi comme ça. Et dans l'après-midi, il revient dans la salle, il revient mais 30 secondes, et il nous dit la peinture c'est de la merde, démerdez-vous. Et il repart. Bon, et ben, ça m'a vraiment traumatisé ce truc-là, parce que c'est une expérience de la solitude terrible, et qu'au fond, sur le moment, je me suis dit, mais il est complètement secoué, lui. Et en fait, il a profondément raison. Et je le pense vraiment pour l'écriture.
C'est pour ça que tu as renoncé à peindre et que tu t'es retrouvé avec le même problème en écrivant. Ouais,
non, en fait, je n'ai pas vraiment renoncé à peindre. J'avais renoncé par la peinture, j'avais renoncé à l'écriture et je suis revenu, en fait. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais au fond, c'est le même problème. Et quel que soit l'art, c'est vrai qu'il y a cette espèce de matière complètement engluante. Et pour moi, et dans ce livre-là, c'est vrai que et même l'idée de la montagne et de la frontière, pour moi, est une. Il y a quelque chose de l'engagement physique qui est très très prononcé, avec des moments qui peuvent être très durs, mais des moments comme ça de joie, de révélation à soi-même. Par exemple, la scène du lac dans ce livre où le fils regarde sa mère, où deux minutes avant, il peut dire, elle est complètement folle. Elle nous a mis en danger avec son histoire de marécage. Et puis après, il la voit aller dans le lac et nager avec son cheval. Et il se dit, elle est complètement folle. Il se dit exactement les mêmes mots, sauf que du coup, il ne recouvre plus du tout les mêmes sens, parce que cette fois, c'est magnifique. Et pour moi, ce glissement-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très proche de l'écriture. Parce qu'il y a des tas de moments où... qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas quoi faire avec ça, parce qu'effectivement, on peut se noyer dans la documentation, on peut se noyer dans une idée qu'on a, on peut se noyer dans un livre dont on ne sait pas par quel bout le prendre. Et puis, à un moment, il se passe quelque chose, tac, ça se transforme complètement. Et quand on peut voir une situation, on peut voir un personnage qui d'un seul coup éclot, s'épanouit complètement. Et ça, c'est un miracle qui, pour moi, justifie complètement de s'y remettre à chaque fois, en fait. Et c'est vrai que dans ce livre-là, il y a peut-être quelque chose de plus... peut-être le plus ouvertement métaphorique de l'écriture.
Et par ailleurs, et je trouve que c'est le cas pour l'un et l'autre, dans le fil de cette narration, de la relation de la mère au fils, il me semble que dans les deux cas, il y a une intention. Alors, je ne sais pas si c'est une intention. En tout cas, il y a une portée éthico-politique qui est de... refuser les clichés psychologisants, par exemple. Ah ben, c'est foutu. Du déterminisme psychologique, quoi. Quand la société nous rabat les oreilles. C'est-à-dire la mère, le fils est foutu. Alors ça démarre mal dans les deux cas, quoi. Il y en a un qui se retrouve dans un coma éthylique. Chez toi, c'est pareil, il se trouve quasi délinquant. Et il y a une volonté de dépasser cela, et ça marche. Alors, on a pu reprocher, je crois, quelque chose de l'ordre de Happy End. Et en fait, je crois qu'il y a une erreur complète, me semble-t-il, qui est que, enfin, on peut le lire comme une nécessité politique, d'une certaine manière.
Oui, mais même sur la question du Happy End, effectivement, il y a des gens. Ça fait 17 ans qu'on me dit que je suis un écrivain sordide, sombre, sinistre, triste, etc. Et là, on m'emmerde parce que ça finit bien, vous voyez. Donc ça, sur ça, il faut prendre sur soi, restons zen. C'est pas grave. Mais c'est toujours, en plus, le problème, c'est qu'on est à une époque où il faut que les choses soient bien, mal, oui, non. Happy End, positif, négatif, etc. Ouais. Alors que c'est pas comme ça.
C'est la pensée informatique.
Ouais. Voilà. Alors que ça marche pas comme ça. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, justement, moi, sur ce livre-là, ouais. je reviens à Beckett aussi là-dessus. Par exemple, si vous demandez aux gens, Beckett, ils vont dire, c'est sombre, c'est drôle, mais c'est sombre, c'est très sombre. Bon, c'est très sombre, d'accord. Vous avez un personnage. Ah, et à la fin, il reste que la tête comme ça. Et sinon, ils se démantibulent tous. C'est quand même, c'est pas drôle. C'est pas drôle, Beckett. Mais sauf que, à la fin, il reste qu'une bouche. Mais elle parle. Elle parle toujours. Et elle ne renonce jamais. Bon, et ben, le message, si message il y a chez Beckett, et je crois qu'il y a message, personnellement, ça n'empêche pas que ce soit d'abord de la littérature. Ce message, il est extrêmement positif, et extrêmement, ouais. Mais parce qu'il est pensé non pas en positif, négatif, happy end, c'est des trucs de vraiment insupportables, ça. Il est pensé comme quelque chose d'organique, de cette puissance de vie, de tout un tas d'éléments qui résistent à la mort, qui résistent à cette résignation. Pour moi, c'est une question fondamentale.
Et on pourrait dire que c'est résumé dans le titre que ton livre, on pourrait le définir comme une variation littéraire autour du verbe continuer.
Oui, complètement. Ouais, ouais.
Ouais, d'ailleurs, ouais. Continuer qui scande régulièrement les...
C'est bien pour ça que je ne l'ai pas trouvé tout de suite, le titre.
Ouais.
Mais bien sûr, oui. Ouais. Oui, mais ça, c'est extrêmement important parce que, justement, il s'agit de défier, d'une certaine manière, oui, de défier les stéréotypes, de défier les clichés. L'espace du roman aujourd'hui permet d'attaquer par le temps qu'on s'accorde, que le lecteur s'accorde avec un livre, que l'auteur s'accorde avec ses personnages et ses situations. Il s'agit de défier toutes ces injonctions, ces mises en demeure, cette rapidité, ce tranchant que la vie de tous les jours nous impose. On est comme ça, toujours une espèce de brutalité tout le temps. Moi, je trouve qu'on nous brutalise vraiment avec tac, tac, comme ça. Et un roman, justement, c'est cet art qui prend le temps de désamorcer les choses, de les, mais aussi de les défier. C'est-à-dire, il faut aller sur ce terrain-là, de dire, ben voilà. Donc, évidemment, ceux qui disent, par exemple, le côté happy end, puis en plus, pour ceux qui ont lu le livre, ils peuvent voir que c'est quand même pas un happy end, il faut quand même pas exagérer. Je sais pas, ou alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu de happy end, mais c'est plus que c'était. Mais pour moi, il s'agit aussi désamorçant ces figures, mais aussi d'aller les défier, c'est-à-dire, on va prendre des clichés. Parce qu'aujourd'hui, notre vie, notre imaginaire, je vous dis, moi, de toute façon, j'ai pas d'imaginaire, donc j'ai pas d'imagination, en tout cas. Je suis comme tout le monde, je fais mes rêves, ma vie, tout ça, c'est complètement imbibé par tous les clichés de cinéma, de livres aussi, de tous ces personnages de fiction, et puis tout ce qu'on voit autour de nous, bien sûr. Et simplement, je pense que le roman aujourd'hui peut s'emparer de ça, de ces figures-là, par exemple celle de l'adolescent, celle de la mère, de l'image de la mère, comme ça, ou du père, ou des choses comme ça, et essayer de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Est-ce qu'il y a la possibilité d'être quelqu'un? Est-ce qu'il y a la possibilité d'un humain possible aujourd'hui, derrière toutes ces images, toutes ces figures, qu'il s'agit pour moi de déverrouiller, de décrasser, et ça, je crois vraiment que le roman peut le faire. Alors après, évidemment, les gens qui veulent voir ça comme quelque chose de happy end, pas happy end, même la question politique, par exemple, c'est un peu naïf quand même. C'est marrant que des gens pensent que dans des journaux de gauche, par exemple, pensent que défendre l'idée de lutter contre le racisme, par exemple, de dire que ça serait une idée naïve. Non, c'est pas naïf, c'est... Mais parce que les gens répondent à des injonctions stupides, dont l'une qui me brutalise depuis des siècles, c'est cette idée qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Ce truc-là, par exemple, déjà, on ne fait pas de littérature en interdisant par l'interdiction, à part dire ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle devrait être. Et puis les bons sentiments, mais c'est comme les mauvais sentiments. La noirceur absolue, il faut y aller, mais l'amour absolu, il faut y aller aussi. Et les bons sentiments, moi je m'en fous, il faut aller aussi. Moi le mystère de l'amour filial par exemple, c'est quelque chose, on peut pas, tout est possible. La question c'est comment à l'intérieur de cette possibilité-là, on cherche l'écriture, on cherche comment approcher ça. C'est ça qui est important.
Ouais, ouais. Emmanuel, il me semble que tu peux n'être que d'accord, mais tu ne l'es peut-être pas du tout. Hier, à la lecture, on a entendu ce magnifique passage qui est vers la fin, où la mère et le fils, après que le fils est sorti de l'hôpital, se retrouvent et plongent en suivant la Marne dans la rivière. Et là aussi... On pourrait dire que c'est pas continué, mais c'est proche. On pourrait dire que ton livre, c'est une variation sur le mot ligne. Et malgré les accidents, les méandres, tant qu'on est dans le vivant, on a l'impression que cette femme, cette mère, veut avancer sur la ligne de la vie.
Oui, c'est même pas vers la fin, c'est la fin.
Oui, c'est la fin.
C'est la fin. Et puis, elle n'est pas que mère, en fait. Elle est aussi fille, elle est aussi femme, elle est aussi... Voilà, comme bon. Et tout à l'heure, je parlais du fait qu'on raconte des histoires, mais ce n'est pas non plus que ça. C'est-à-dire que, du coup, nos livres, en plus, nos livres à nous deux, ils sont très difficiles à adapter au cinéma, par exemple. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un travail qu'on fait, justement, de déconstruction, etc., qui déborde cette narration-là. Et moi, je voulais... Je digresse un peu, là, mais je pensais à quelque chose pendant que Laurent parlait, c'était que tout ce qu'on fait, là, de se démerder, en quelque sorte, comme il disait. Parce qu'il y a aussi quand même... on est toujours sur le fil de l'obscénité et tout ça. C'est pas très, très... On hésite toujours, est-ce que ça il faut le dire, est-ce que ça veut lui parler par rapport à des gens réels, et donc il se demandait s'il pouvait donner des prénoms, tout ça, mais même de manière générale, qu'on donne les prénoms ou pas, qu'on travaille avec des personnes réelles ou pas, on se demande toujours est-ce qu'on a le droit d'écrire ça, est-ce que c'est pas obscène, est-ce que c'est pas privé, est-ce que c'est pas... Voilà. C'est compliqué et c'est pas facile et c'est dangereux, c'est tout ce que vous voulez, et si on peut le faire. C'est partout le travail qui accompagne tout ça, mais c'est aussi parce qu'on a l'espace pour le faire. Et cet espace-là, c'est nos éditeurs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, c'est peut-être pas une bonne expression pour ça, mais en tout cas, on a de la chance d'être vraiment accompagnés. Et d'avoir des éditeurs qui acceptent quand même une certaine prise de risque, et sans aucune censure ou recadrage et tout. Moi, la seule fois où mon éditeur m'a recadré, c'est sur le dernier livre qui n'est pas encore sorti, parce que justement la documentation prenait trop de place, mais rien à voir avec ce que j'étais autorisée ou pas à dire ou écrire, sauf que de temps en temps on nous dit juste quand même bon, est-ce que vous avez changé les prénoms pour, parce qu'il y a eu des procès, parce que machin, voilà, mais bon, là c'est un petit détail que je dis, c'est-à-dire qu'on a quand même un soutien, voilà, on n'est pas tout seul. Moi je crois que je ne serais pas capable de, parce qu'il y a des écrivains qui ont leur propre maison d'édition et tout ça, et puis dans d'autres espaces comme l'espace de la musique par exemple, où il n'y a pratiquement plus de maison de disques, ils sont obligés de se débrouiller tout seuls, et du coup c'est une prise de risque aussi de prise de parole. Nous on est vraiment accompagnés, on est cadrés, on est voilà.
Alors, c'est vrai où que l'on je voit la posture question, mais... de l'auto-édition sur internet.
Pas seulement sur Internet.
Ça fait partie de ça, ce projet, c'est quand même...
Oui, parce qu'on fait, on fait payer les gens, en plus,
ce que dit Emmanuel.
Ouais. Ouais, le problème, c'est qu'on fait payer les gens. On leur dit, vous nous donnez 500 euros et puis on va faire votre livre.
Oui,
et
ça, c'est encore notre problème.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a tout un monde qui existe autour de ça. Et c'est vrai qu'avoir un éditeur avec lequel on peut construire dans le temps aussi, parce qu'il y a des gens qui ont, pour le coup... qui ont eu beaucoup d'éditeurs, qui changent d'éditeur très régulièrement. C'est très particulier, parce que quand on discute avec eux, on sent que ça les fragilise beaucoup.
Il y a des éditeurs même gros avec qui on ne peut pas faire... mon livre de fragments, je n'aurais pas pu le faire avec d'autres, certains éditeurs, même plus importants que Paul, je n'aurais pas pu le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des choses comme ça, qui ont été refusés, justement, à cause de la... de prise de risque de la forme. En plus, ce soutien, il est très vaste. Et non seulement il nous donne la parole... mais en plus, il apporte là, cette parole-là. Parce que du coup, grâce à ces éditeurs, on est lu, vraiment. Enfin, on est... j'ai du mal à m'expliquer. Mais on n'est pas tout seul.
C'est vrai que c'est extrêmement important. Ouais. Même si parfois, c'est à double tranchant aussi. Parce que c'est vrai que parfois, on a là, en l'occurrence, tous les deux, deux éditeurs qui ont une image très forte. Qui nous sert parce qu'elle nous protège, mais qui parfois peut être aussi un petit peu enfermante parce qu'on se dit « Ah, vous êtes des écrivains intello,
etc. » Plus chez Minuit. Chez nous, c'est plus hétéroclite.
alors qu'en même temps, on est vachement plus drôle chez Minuit, je comprends pas.
Non, mais c'est ce que se disent les lecteurs.
C'est vrai que ça compte beaucoup, mais c'est comme tous ces trucs qui protègent. Les trucs qui protègent, le problème d'une carapace, d'une certaine manière, c'est qu'à la fois, elle nous permet, à l'intérieur de ça, d'avancer, de faire notre travail, et en même temps, elle induit une image, alors qu'on peut être à l'intérieur d'une maison très différente les uns des autres. Oui. Mais moi, je sais, parfois, il y a des gens qui veulent me comparer absolument à Echnoz ou à Toussaint. Je dis, mais non, je ne fais pas du tout les mêmes livres. Mon sens de l'humour est assez réduit. On ne fait pas du tout les mêmes choses. Et tant mieux. On a un souci commun. Et ça, c'était Chevillard qui avait dit ça, par exemple. Les écrivains de chez Minuit peuvent être à la fois très différents les uns des autres, mais ils ont un point commun, c'est Beckett. Et c'est vrai que chez Beckett, on peut trouver des points de ressemblance avec à peu près tout le monde. Parce que chaque maison a son histoire aussi, et elle est à la fois très... après, évidemment, je ne sais pas comment... pour le coup, je ne sais pas pour Stéphane qui était chez Gallimard et qui est maintenant au Seuil. Je sais pas, je pense que c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que c'est vrai qu'il aurait des choses intéressantes à nous dire sur ça, parce que... nous, là où on a un parcours qui est maintenant, qui commence à devenir rare, c'est, je pense, les gens qui sont chez le même éditeur depuis très longtemps.
Continuité. Ouais.
Ça, c'est important.
On va...
Mais c'est vrai, je suis désolée, je n'ai pas répondu à la question de la ligne. Mais bon. Ou alors, d'une autre façon, j'ai répondu.
Oui. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais...
Non.
Il y aurait eu beaucoup d'autres questions à aborder, vu que c'est très riche, mais on va devoir arrêter. Je citerai juste deux points qui me paraissent forts dans vos livres. C'est la musicalité de la langue à travers le rythme, les assonances, voire les allitérations. Je trouve que c'est très, très présent.
Ça, pour moi, par exemple, c'est exactement cette question entre le rapport entre le lâcher prise et la maîtrise. Ouais. La question du phrasé, en fait. Ouais.
Toi aussi.
Oui, tant que j'ai pas trouvé le mot qui convient, des fois pour justement qu'il y ait des allitérations parce que c'est important par rapport à ce que je vais dire, ou pour qu'il y en ait pas du tout. Je passe énormément de temps et à un moment donné, il faut qu'on me dise stop.
Il y a le rapport au temps aussi qui est très fort, la temporalité de vos écrits dans les deux cas. Alors, il y a du présent mais qui vite fuit vers le passé de la remémoration, ça peut jouer dans la même phrase. Et alors, toi, Laurent, également, c'est-à-dire qu'une phrase peut être le dépliement des différentes couches de temps, du passé, du présent et du futur. Ouais. Quoi. Il me semble que c'est très important dans votre travail d'écriture à l'un ou l'autre.
Mais ça, le roman sur ça, le phrasé, le déploiement d'une phrase a une souplesse, effectivement, que le cinéma aura du mal à... à rattraper, ça c'est sûr, ouais. parce que c'est quelque chose qui est propre à la littérature, au roman, de pouvoir comme ça, presque dans un seul mouvement, embrasser non seulement une vision panoramique de l'espace, mais aussi du temps. C'est quand même un art du temps d'abord, le roman, pour moi. Et dans cette question rythmique, si une fois encore ça rejoint cette question des effets de réel dont on parlait tout à l'heure, ça produit vraiment un truc dont on... Par exemple, quand on me dit sur ce que j'appelle oubli parce que c'est une seule phrase, on me dit c'est un livre sans ponctuation. Non, il n'y a que ça, il n'y a que de la ponctuation pour moi au contraire.
Et puis il y a une amplitude de la variation de la longueur de tes phrases en plus.
Pour bien le sûr, ouais.
Il y a des passages très rythmés de phrases très courtes. Et des passages où une phrase peut faire trois pages, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, si on lit que certains passages, on va dire que t'es proustien, si on lit.
Voilà, oui. Oui, non, mais c'est alors que pour moi, effectivement, mais c'est une gymnastique. Voilà, moi, je mets des boules de caisse en écrivant, ouais. Et c'est vraiment un truc de. C'est d'abord un truc de. J'ai l'impression de faire des solos de batterie, moi, vraiment, quoi. Ouais. Avec ce côté free jazz du comment une phrase va. Cette question de la variation, cette question de la transformation, de la.
Mais ces effets de réel que tu rappelles liés à ce travail sur la musicalité, le rythme, la temporalité de la phrase, c'est très fort, quoi. C'est comme Emmanuel, par exemple, les passages sur la violence de l'atelier textile du Moulinage. On croirait, alors qu'on n'a jamais connu ces situations-là, être dans l'atelier par la phrase, par le rythme de la phrase, par la cadence de la phrase.
Ben c'est l'expressivité, il y a un souci de quand même. Parce que très souvent, il y a plein de livres où, je ne sais pas s'il y a de la littérature ou pas dedans, mais en tout cas, il y a zéro expressivité. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui se contentent de dire « le personnage entre dans le wagon du métro », par exemple. Ouais. Mais ça compte beaucoup sur le fait que le lecteur sait ce que c'est que le métro et un wagon de métro.
Oui, moi, je pars toujours du postulat que le lecteur ne sait pas de quoi je parle.
Et oui, il faut aller... Moi, je suis...
Que je dois décrire la rue et tout ça, parce qu'il n'y a rien de plus qui m'agace de lire des livres où on dit rue un tel, et rien. Et souvent, en plus, ben, c'est des rues de Paris, que je ne connais pas du tout. Mince, moi je m'enquiquine à lui expliquer ce qu'on sent, ce qu'on ressent.
Oui, il faut
et tout
repasser
ça dans
par la
rue.
Sensation.
Et évidemment qu'il ne sait pas de quoi on parle. Et même quand on parle de choses que tout le monde partage, il ne sait pas de quoi on parle parce que personne, ni même nous, ne savons de quoi on parle. C'est le béaba pour moi, c'est le béaba. Et même si je ne vais pas décrire par le menu et tout ça, mais c'est ça, c'est restituer ce qu'on ressent. Ça suffit pour comprendre, mais par contre, pour restituer ce qu'on ressent ou ce que nous, on suppose qu'on ressent, parce que moi non plus, je n'étais pas dans les moulinages, et ben, ça passe par tout ce dont on a parlé au début, de documentation, de témoignages, de tout ça, pour, comme il dit, tirer juste un petit mot qui manquait à la sensation.
Oui, ouais, ça, c'est extrêmement important. Hein.
Voilà.
Voilà, je propose que nous en restions là, vu que l'heure s'avance. On vous remercie beaucoup.